Retrouvez Dear Veil People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble.
Bonjour à tous, chers auditeurs, pour ce dernier épisode sur la thématique de la sexualité sur Dear Veil People. Pendant le dernier épisode, on a pu entendre Frédéric Roux parler du handicap, de son désir sexuel, sa masculinité, et comment le handicap pouvait être un frein, notamment un frein social, et aussi son vœu de vouloir briser ces stéréotypes, notamment que les personnes en situation de handicap n'ont pas de désir. Pour rappel, Frédéric a un handicap visible, il se déplace en fauteuil roulant. Aujourd'hui, on va voir avec une invitée que vous connaissez déjà, chers auditeurs, que même dans le cas du handicap invisible, il y a des problématiques dont on ne parle pas, qui sont insoupçonnées, et elle est là pour en parler, c'est Brunel Roger. Bonjour Brunel.
Et bonjour.
Tu vas bien ?
Très bien, enfin plus ou moins bien en fait.
Comme toujours avec le handicap, c'est des hauts, des bas et on essaye de trouver un équilibre.
Ouais, on essaye. On fait ce qu'on peut.
Oui, c'est ce qu'il faut. Pas trop traumatisé de ton dernier passage à l'émission.
Bah pas du tout. Si je reviens, c'est que ça va, je crois.
Mieux. Donc, cette thématique de la sexualité, du handicap, comment ça résonne en toi ?
Waouh ! Ça, c'est t'attaque direct avec une bonne grosse question. Comment ça résonne en moi ? Ben, je ne sais pas, le handicap.
Ouais, tu me connais, je ne suis pas du genre à aller par quatre chemins.
Ouais, carrément. Du coup, comment ça résonne en moi ? Alors, une personne handicapée qui a clairement une vie sexuelle et qui est confrontée à certaines problématiques liées ou pas au handicap, sachant que je suis aussi une femme handicapée, donc petite parenthèse féministe, mais voilà. C'est compliqué pour les deux, en fait. Être une femme et vivre une sexualité en essayant de vivre une sexualité plutôt libre et ouverte, et être une personne en situation de handicap et être confrontée à des trucs chelous de la part de certains.
Ok, donc plein de choses là déjà pour commencer. Donc toi, tu fais la part des choses entre être une femme, d'abord, pour toi, ça apporte un lot de problématiques par rapport à la sexualité, et notamment avoir une vie sexuelle, tout simplement. Et d'autre part, être en situation de handicap. Et peut-être que là aussi, avoir une vie sexuelle, c'est quelque chose de critical, je dirais, entre guillemets, où on discute dessus. Comment tu vois les choses, toi ?
Non, je crois pas. Je pense que c'est plus critiquable d'avoir une vie sexuelle et d'être aussi ouverte sur le sujet de la sexualité en général, plus en étant une femme qu'en étant une personne en situation de handicap. Sachant que mon handicap est invisible, en fait, j'ai pas réellement de questions par rapport au fait que... Enfin, ça semble tout à fait normal que j'ai une vie sexuelle, par exemple. Genre, personne se pose jamais la question de savoir s'il y a des complications pour moi.
Mais alors, petite bifurcation, que penses-tu, toi, de ce débat sur le désir sexuel des personnes en situation de handicap, comme on a pu en discuter avec Frédéric la semaine dernière?
Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas réellement de débat à avoir, sachant qu'on est tous des êtres humains et que dans la logique, on a tous plus ou moins de désir, en tout cas un désir qui nous est propre, et donc la question n'est pas du fait d'être en situation de handicap ou non.
Quelle est la question alors ?
Bah, savoir comment chacun vit sa sexualité, enfin, on est tous différents, personne n'est sur le même pied d'égalité par rapport à la sexualité. Enfin, il y a tout à fait des personnes qui n'ont pas de sexualité sans avoir de handicap et des personnes qui ont une sexualité en ayant un handicap. Enfin,
oui, il y a une part pour tout le monde.
Voilà, c'est biaisé de penser que le handicap va vraiment mener forcément à autre chose par rapport à la sexualité, voire va juste enlever cette partie-là qui est importante quand même dans la vie de tout le monde.
Et d'après toi, comment, pourquoi aujourd'hui on est dans cette idée-là et comment on fait pour vivre sans finalement? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas.
Pour vivre sans se poser de questions.
Sexualité.
Ah, sans sexualité, je sais pas, j'avoue. Mais j'imagine que si on n'en ressent pas le besoin, on ne le fait pas. Après, le plus compliqué, c'est si on en ressent le besoin et que ce n'est pas possible à cause de la vision des autres ou de choses qui ne sont pas directement liées à nous, en fait. Ou alors, enfin, je pense qu'en général, le handicap fait peur, déjà. Gros mot. C'est un gros mot de dire qu'on est en situation de handicap ou qu'on est handicapé.
C'est encore un gros mot, on est d'accord.
Mais ouais, je pense que globalement, la vision du truc, c'est comment. Enfin, je pense que l'autre se dit, mais comment je vais faire? Il va falloir que je me réinvente, il va falloir que je revoie ma sexualité. Et je t'avoue que déjà, en tant que femme, en parler avec des hommes et ouvrir le débat, rien que en me positionnant en tant que femme et sans parler de handicap, c'est compliqué des fois d'ouvrir le débat sur la sexualité et de savoir comment faire pour que ça convienne à tout le monde. J'imagine même pas avec un handicap visible. Genre, mais je pense que même moi, hein, pourtant étant porteuse de handicap et tout, je me poserais quand même la question, à vrai dire, tu vois. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai essayé aujourd'hui, et c'est pas que je sois fermée à ça, mais je pense que c'est une question que je me poserais aussi si j'étais face à un homme qui a un handicap moteur, de savoir comment on ferait, et bah, je pense que. Le bon sens voudrait que je lui demande et qu'on en parle, mais ouais, je pense que c'est pas forcément évident.
Ah, c'est pas une question simple à poser, qu'on pose comme ça entre deux questions. C'est quelque chose de assez sensible et comme tu dis très bien, ça demande aussi de remettre en question sa sexualité, quelque chose d'encore assez tabou et que la société nous montre aujourd'hui qu'il y a une sexualité qui marche. Alors que c'est totalement faux, il y a une multiplicité de sexualités. Et donc, finalement, on en est tous au même point. Comme tu disais en début d'émission, on fait ce qu'on peut.
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et nos désirs sont pas les mêmes et nos besoins sont pas les mêmes et nos corps sont à tous différents en fait.
Et pour revenir à notre sujet, justement, donc de la sexualité avec un handicap invisible, donc ton corps à toi, comment est-ce qu'il fonctionne? Je dirais pas ça, mais quelles sont ces problématiques insoupçonnées que tu peux rencontrer, ces réactions un peu cheloues de ces hommes?
Bah déjà, le plus simple à expliquer, mon corps est douloureux. Donc, comment expliquer à quelqu'un que dans certaines positions, de temps en temps, je vais avoir mal. La plupart du temps, ça va bien se passer, mais de temps en temps, c'est pas possible. C'est pareil, la fatigue aussi qui est présente, bah, c'est pareil, mon corps va pas forcément réagir comme je ressens les choses. C'est-à-dire que des fois, je peux être excitée et mon corps me le montre absolument pas. Genre, il réagit juste pas, en fait. Et du coup, j'imagine que la personne en face se dit, ah, il n'y a rien, tu vois. Alors que, en fait, bah non, j'ai envie. Et puis, au pire, il y a des aides, tu vois. Et si j'en avais pas envie, je dirais non. Mais ouais, c'est pas forcément évident d'expliquer aux autres et à ton
Encore,
partenaire à ce moment-là.
c'est sûr, c'est pas forcément le moment où on a envie d'expliquer les
Ouais.
choses. Déjà qu'on le fait bien assez souvent dans le quotidien. Tu parlais donc de de ces aides qu'ils pouvaient avoir. Quel exemple as-tu en tête?
Ben, l'exemple, c'est que bah, quand je suis fatiguée globalement, mon corps va pas réagir dans le sens où bah, je vais pas être mouillée. Et bah, par exemple, il y a du lubrifiant, tu vois. Genre, c'est simple. Et c'est juste que le rapport se fait très vite en mode ah, c'est sec, donc forcément, il n'y a pas d'excitation, tu vois. Alors que c'est pas vrai. Mon corps, des fois, est tellement fatigué que bah, j'ai envie, mais il se passe rien, tu vois. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué pour moi aussi parce que je sais que j'en ai envie et pourtant ça fonctionne pas. Et de se dire et de se mettre ça dans la tête en mode ah, je devrais lui montrer que j'ai envie, mais je sais pas comment faire parce que bah effectivement ça se voit pas trop. Puis je suis un peu fatiguée pour être super expressive physiquement en fait.
Donc ça, aussi on remet en question, encore une fois, sa propre sexualité, est-ce que j'ai une sexualité qui fonctionne, effective, et c'est une assez grosse
Ouais.
pression, je suppose.
En fait, je pense c'est pour ça que genre, je me mettais en relation avec le fait d'être une femme. C'est que je pense qu'en tant que femme, déjà, la problématique de contenter l'autre, elle est pas mal chez les femmes quand même, en général. Et donc, quand tu es dans cette position-là, que bah, tu aurais envie de le contenter, c'est même pas que tu n'en as pas envie, c'est juste que ton corps réagit pas et que tu es dans l'incapacité de le faire, bah, tu te mets à culpabiliser en fait. Parce que t'es pas capable de contenter. Bah, en plus, en ayant une sexualité hétérosexuelle, voilà, genre, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier. Mais bon. Je suis confrontée à ça. Alors, il faut que je contente l'homme avec lequel je suis. Et cette problématique-là aussi de me dire si jamais ça se répète trop de fois, si jamais je suis pas performante, en gros, ça va lui déplaire et ça met en péril la relation, en gros.
La question de la performance, finalement, elle est de chaque côté. Elle est autant chez les hommes que chez les femmes.
Ouais, je pense. C'est pas le même genre de questionnement, mais oui. On se pose tous la question de la performance, je pense, hein.
Oui, ça va très régulièrement. En tant qu'homme hétérosexuel, je peux le dire. Et
Ouais.
forcément, la question de la performance, on se la pose déjà de base à cause du handicap, je pense,
Ouais,
où notre corps nous empêche de réaliser certaines actions, ce qu'on aimerait faire, et qui te dit, ben non, va falloir que tu trouves un autre moyen. Mais là, faut faire la même chose avec la sexualité. Et ben, bon courage.
il y a des questionnements que tu te poses et des questionnements que je me suis posé bah, surtout en couple en fait hein, dans le sens où déjà j'avais l'impression quelque part de faire porter le poids de la maladie à l'autre aussi et évidemment c'est le cas, la personne m'accompagne dans mon quotidien, la personne voit les moments où je suis moins bien, la personne souvent m'accompagne à l'hôpital pour prendre mon traitement et tout. Et je me disais, je peux pas, j'ai pas le droit en fait de pas faire d'effort à ce moment-là. J'ai pas le droit de laisser tomber la relation et de faire subir une frustration en plus à l'autre, tu vois. Et la frustration sexuelle, bah, jamais on s'est posé la question aussi de savoir si pour moi c'est pas une frustration en fait de juste pas en état de faire. Et la peur que tu as en couple de se dire la maladie c'est un poids et en plus si ça impacte ce côté-là de la relation c'est d'autant plus un poids, ça devient très lourd quoi. Et plusieurs fois j'ai eu des phases des grosses phases de sans libido en fait justement. Et plus tu te poses la question quand t'as pas de libido, plus tu te poses la question en mode ah là là le handicap est présent au quotidien et je rajoute ça et petit à petit en fait bah t'as de plus en plus de trucs qui viennent impacter la relation. Moins t'en as envie en fait, moins la libido est susceptible de revenir.
Oui, ça devient un cercle vicieux qui ne fait que nous enfoncer finalement. Et ces phases sans libido dont tu parles, tu les as vécues en étant en couple?
Ouais, plusieurs fois même. J'ai eu une relation de 3 ans dernièrement et une de deux, et c'est vrai que j'ai eu des phases assez importantes sans libido. Et c'est difficile de mettre le mot dessus, mais je pense que c'était d'une part parce que j'étais hyper fatiguée. Genre, j'ai des phases où je suis bien plus fatiguée que d'autres. Genre, les gros changements de température me fatiguent beaucoup. Donc, bah, c'est vrai que c'est difficile d'avoir envie de faire l'amour alors que qu'on est crevé, quoi. C'est aussi difficile parce que, par exemple, en hiver, quand l'hiver arrive, avec le froid, j'ai plus de douleurs. Donc, ça, c'est pareil. Enfin, c'est plus compliqué, quoi. Et en fait, je pense qu'il faut que l'autre soit réellement à l'écoute de ton corps pour que tu réussisses à avoir envie de quelque chose. Mais là, ça demande beaucoup d'ouverture et je pense que c'est une grosse problématique en général dans les relations, et pas forcément amoureuses, mais dans les relations charnelles, en gros. C'est le manque de communication. Beaucoup. dans les relations humaines, peut-être, si on peut généraliser, mais...
Ouais, je pense aussi, on va revenir sur ces questions du corps et de la communication juste après notre pause musicale sur Auditoris. Aujourd'hui, Brunel nous propose d'écouter le titre Endress de Oscar and the Wolf. Bonne écoute sur Auditoris, on se retrouve juste après. On se retrouve pour le dernier épisode d'une thématique de la sexualité en situation de handicap sur Dear White People. Je suis toujours en compagnie de Brunel Roger. Ça va toujours, Brunel?
Toujours, toujours. On parle de sexualité, un de mes sujets favoris.
Ça ouvre des voies et une passion, peut-être aussi.
Oui, tout à fait, voilà.
On parlait juste avant la pause de le corps, de l'écoute de l'autre, de la communication. Est-ce que tu pourrais donner, on va dire, tes avis pratiques, des tips peut-être, comment réussir à ce que l'autre arrive à être à l'écoute de ton corps, par exemple?
Bon, la première des choses, c'est d'en parler, je pense, hein, je veux dire, logiquement, la première des choses, c'est d'en parler. Déjà, moi, le truc que je dis tout de suite, généralement, aux gens en général, c'est que je suis malade. Enfin, je le dis très tôt dans la relation, parce que comme ça fait partie de ma vie, je me vois pas le cacher. Donc, après, certaines personnes posent des questions directement, et si jamais les questions ne se posent pas, bah, on va dire que je rentre. Je mets les deux pieds dedans et j'explique quoi qu'à certains moments ça peut se passer comme ça et que c'est pas grave et que ça veut pas dire que j'ai pas envie, que ça veut pas dire que la personne ne me plaît pas, que c'est juste comme ça.
Et dans ces moments-là, il faut juste attendre, faire d'autres choses. Je suppose que ne pas avoir de libido, ça n'empêche pas non plus des moments de tendresse, par exemple.
Oui, clairement. En plus, les moments de tendresse, en tout cas pour ma part, ça va clairement amener à plus. Enfin, ça aide beaucoup, en tout cas, à amener à plus, quoi. J'aime tous ces moments-là. Pour moi, le sexe, c'est pas. Enfin, déjà, c'est pas qu'une pénétration, mais ça semble logique de le dire. Et en même temps, non. C'est un
Ah,
peu.
c'est important de le répéter, je pense.
Et c'est rigolo parce que j'ai entendu pas mal d'hommes en général pensaient que avoir un rapport sans pénétration, finalement, c'était ne pas avoir de rapport. Alors que pour ma part, en tout cas, c'est peut-être le genre de moment que je préfère. Et donc, oui, j'en parle beaucoup en me disant que bah, toute cette part-là, qui paraît peu importante pour certains, en fait, est extrêmement importante pour moi parce que j'ai besoin qu'on prenne le temps.
Et pour revenir à ce que on disait sur les moments de tendresse aussi, je suppose que ça permet de se mettre en condition pour des moments de communication justement aussi.
Oui,
Peut-être qu'on
clairement.
va être plus ouvert à parler de sujets relativement intenses.
Ouais, mais après, clairement, je suis du genre à pas avoir trop envie d'avoir des rapports avec quelqu'un qui ne m'intéresse pas et avec qui je ne me sens pas à l'aise et avec qui il y a zéro communication dans tous les cas. Donc, pour que s'il n'y a pas au moins ça, au moins un minimum, moi, c'est pas possible, quoi.
Je suppose que c'est un peu comme tout le monde, enfin, je l'espère. Je pense qu'il y a un minimum pour chacun de communication, de points communs, de feeling.
Ouais, mais on n'a pas tous le même seuil.
Ah oui, non, ça, clairement, clairement, clairement. Mais justement, cette histoire de seuil, toi, tu le mettrais où, selon toi? Est-ce que tu pourrais l'expliciter réellement ou c'est quelque chose qui va se faire plus sur le moment?
Moi, Non, ouais, c'est quelque chose qui se fait sur le moment. Genre, il faut que j'ai un feeling avec la personne. Et clairement, le feeling passe pas que par l'aspect physique, on va dire. Genre, vraiment, j'ai besoin que la personne m'intéresse. Comment l'expliquer autrement? Je pense que c'est aussi globalement différent pour tout le monde, l'intérêt qu'on peut porter, mais une certaine.
Ça me fait penser à une question. Moi, personnellement, dans mon expérience de personne en situation de handicap, je me retrouve souvent avec des gens qui me disent t'es intéressant.
Ouais.
Et moi, au bout d'un moment, ces gens, ce côté t'es intéressant, j'ai du mal à l'interpréter réellement comme une bonne chose parce que finalement, c'est un peu comme si tu étais une bête de foire, tu es intéressant. Et toi, tu l'emploies comme il faut que la personne m'intéresse un minimum et comme quelque chose de positif finalement. Comment tu émettrais la différence entre les deux?
Je sais pas, pour moi, en tout cas, il faut que la personne soit ouverte d'esprit, c'est que la communication soit fluide, que ce soit pas dérangeant que j'ai un avis différent du sien, que bah, la personne soit ouverte à mes positions, même si on n'a pas les mêmes. Enfin, la communication et l'échange, c'est hyper important pour moi. Et s'il n'y a pas ça de base, c'est-à-dire que si je vois qu'il y a des fermetures à certains endroits parce que justement on ne pense pas la même chose et que du coup c'est pas la peine d'en parler, tu vois, il n'y a pas d'intérêt.
Oui, on peut avoir des avis qui divergent, mais il faut qu'on puisse en discuter et qu'il y ait une place pour le discours de chacun.
Et concernant la sexualité, du coup, c'est la même chose en fait. Pour moi, il faut qu'on puisse en parler ouvertement.
Oui, il faut non, que chacun trouve sa place aussi.
C'est ça, enfin, le but étant que les deux prennent du plaisir en fait. Et que ce soit un réel moment de partage.
On est sur une utopie, je pense, pour certains, mais en tout cas, c'est un bel objectif. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des gens en situation de handicap qui ont du mal avec leur sexualité? On a pu entendre le témoignage de Frédéric, on a pu entendre les témoignages de bénéficiaires d'assistance sexuelle et comment ils ont pu retrouver une confiance en eux après ça. Toi, est-ce que tu as eu un manque de confiance par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a permis de retrouver de la confiance?
Par rapport au handicap, globalement, pas réellement. Après, manque de confiance, oui. Le handicap n'ayant vraiment pas aidé, globalement, sur une question de confiance en moi. Mais comment j'ai pu reprendre confiance en moi? Je pense en étant réellement sûre de moi, c'est-à-dire en arrêtant de chercher à ce que les autres légitime ma place en fait. Je me suis dit à un moment que j'étais légitime d'être ce que j'étais tout simplement parce que je l'étais et que personne n'avait le droit de m'enlever ça. Et donc je suis légitime de mon désir parce que je le ressens, je suis légitime de mes besoins parce qu'ils m'appartiennent et j'arrête de chercher l'approbation tout le temps chez les autres. Mais ça reste compliqué. Et c'est pas parce que je le dis aujourd'hui que c'est forcément simple à mettre en œuvre.
Ah oui, ça, le fossé entre la théorie et les réussir à avoir ce comportement par rapport à cette théorie, c'est deux choses différentes. Et finalement, on peut le résumer par tu es légitime parce que tu existes, comme tout un chacun dans ce monde, je suppose. Ça rejoint aussi ce que dit le philosophe Eric Fiat par rapport à la dignité de la personne humaine. C'est quelque chose d'ontologique, ce qui veut dire que c'est quelque chose que tout le monde a de base parce qu'il est là, il existe et ça va être la même chose pour tout, autant le désir sexuel, qu'on soit en fauteuil roulant, aveugle, sourd, ça va être la même chose.
Exactement.
Brunel, Roger hoche la tête.
Oui, je valide. Si jamais c'était important de le noter.
C'est surtout pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne te voient pas hocher la tête, c'est important de le noter. Un dernier mot peut-être, Brunel.
Force et honneur, non, continuez de parler en fait autour de vous, continuez d'échanger sur les problématiques que vous vivez et restez ouvert, quoi, s'il vous plaît.
Pierre Valide Pépol est là pour les faire parler.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Brunel, d'avoir participé. C'était le dernier épisode de notre thématique sur la sexualité, chère auditrice. J'espère que ça vous a plu. Dès la semaine prochaine, on embarque pour une nouvelle thématique avec de nouveaux handicaps, de nouvelles maladies et connaître de nouvelles expériences de vie. À la semaine prochaine, chers auditeurs, et prenez soin de vous.
Suivez Dear Valley People sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.